y a toujours des kimchi.
C'est la cuisine maternelle. On peut pas penser un repas coréen sans kimchi.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde, les goûts et les saveurs du monde nourris par la terre qui les porte, les hommes qui les produisent, nourris par les pratiques, l'esprit, les philosophies. Ces saveurs sont le reflet de mondes, différents forcément, en mouvement, des mondes qui à notre insu parfois se correspondent. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une cuisine séculière, riche de traditions, d'invisibles en mouvement, surtout de nature. Bonjour Luna Kyung.
Oui, bonjour Clémence.
Vous êtes coréenne, artiste, écrivain, spécialiste de fermentation. D'ailleurs, l'art de la fermentation, vous avez publié avec Camille Ogier, est une référence. Et donc aujourd'hui, il y a Easy Corée chez Mango Cuisine. C'est un petit livre d'initiation à la cuisine coréenne, à sa philosophie aussi. Les deux semblent d'ailleurs indissociables. Si je vous demande, Luna Kyung, quel est le goût de la Corée?
Honnêtement, c'est difficile de contenir un goût. D'autant plus que c'est vrai que je suis partie depuis très longtemps de la Corée. Donc, j'ai mon goût à moi, le goût de la Corée, et le goût de la Corée qui se passe actuellement. Voilà. Je dirais le goût de la Corée serait quelque chose effectivement très ancré dans les épices, notamment le piment. Alors que moi, ça fait quand même presque 30 ans que j'ai quitté la Corée. À l'époque, c'était pas vraiment le goût de piment que j'avais dans mon mémoire. Et surtout partout, moi je dirais plutôt quelque chose de goût de bouillon, le bouillon de bœuf, voilà. Parce que le bouillon, les Coréens consomment toujours beaucoup, beaucoup. Et c'était à chaque repas, il y avait du bouillon. Au restaurant, il y a toujours des plats de bouillon. Donc pour moi, c'est ça. Donc je vous dis, pour objectiver un petit peu, pour ne pas citer juste un seul.
D'accord. Le goût du bouillon, donc, avec des algues, forcément, avec du bœuf, vous avez dit?
Les algues, ça revient souvent, mais bon. Mais ça, c'est une option. C'est une option qu'on mange très, très souvent, c'est vrai. C'est un des plats très, très représentatifs, mais les algues, c'est pas toujours.
D'accord. Donc, on s'arrêtera sur un bouillon et un goût de bouillon. Maintenant, quand même, parce que j'ai très envie que vous m'emmeniez, dans cette Corée que vous avez quittée il y a 30 ans, mais qui est dans vos racines et dans vos gènes. Si vous m'emmenez là, je voudrais que vous fermiez les yeux.
Ah oui.
Et que vous me décriviez où on est, ce que l'on a sur la table et quelles sont les couleurs que l'on a autour de nous. Si vous deviez m'emmener, où est-ce qu'on est là?
Alors, vous êtes une Française. Donc, je vous emmène à quelque chose. En plus, vous êtes une Française très curieuse de cuisine du monde. Donc, je vais vous emmener dans un restaurant très typique, très populaire, un peu comme bistrot en France. Donc, avec là où on peut manger des presque un peu comme à la maison, repas quotidien avec un bol de riz et une soupe, le fameux bouillon dont je vous ai parlé, soit avec des algues, soit avec d'autres légumes. Et il y aurait bien sûr des petits plats qui s'appellent panchan. Panchan, c'est une sorte d'assortiment des petits plats qui accompagnent le riz et la soupe. Voilà, il y a à peu près trois éléments. Un bol de riz, le riz bien sûr très important, une soupe et un groupe de petits plats qui s'appelaient panchan. Et dans le panchan, évidemment, si on parle de la cuisine coréenne, il y a le kimchi. Il y a toujours au moins un, sinon trois, quatre. Il peut y avoir plusieurs sortes de kimchi. Et il y aurait toujours un élément, soit poisson, soit un peu de viande, soit l'œuf qui apporte des protéines. Voilà, c'est souvent, quand c'est un restaurant vraiment populaire pour tout le monde, c'est juste un omelette avec l'œuf. Ce serait comme ça. Sinon, les poissons séchés aussi, on voit très souvent un peu sucré, salé, confit. Et sinon, là où on est un peu saison de nouveaux pousses, les légumes verts qui sont, qui s'appellent les namul. Namul, c'est une préparation de légumes qui se fait dans toutes les saisons, mais c'est surtout en ce moment, au printemps, avec les nouveaux pousses, on fait toutes sortes de salades crues ou cuites. C'est bien pour apporter les vitamines qu'on n'a pas mangé pendant l'hiver, des légumes frais. Ça, c'est le moment vraiment pour faire un cure de détox. Mais enfin, je ne crois pas au détox, mais en tout cas, on peut dire comme ça. Voilà, tu t'emmènes à un restaurant vraiment typiquement coréen.
Et il est où ce restaurant? On est en ville ou pas?
Mais là, pour le moment, nous, on est à Séoul. on est à Séoul, parce que c'est vrai que Séoul, c'est une ville où c'est presque un quart ou un cinquième de la population coréenne vive. Donc, c'est vraiment très dense. Et il y a de tout, bien sûr, c'est un peu comme à Paris. Il y a de tout, on peut voir. Et il y a des restaurants très populaires. Et surtout, tu verras beaucoup de jeunes qui travaillent, parce que les Coréens travaillent beaucoup. Donc, ils cuisinent pas beaucoup. C'est-à-dire, on mange beaucoup au restaurant. Et il y a beaucoup, beaucoup de propositions. On a l'embarras de choix. On est un de ces nombreux restaurants, voilà, dans un quartier plutôt aussi populaire. Il y a beaucoup de travailleurs. Le bureau. Ben, les bureaux, il y en a partout à Séoul. Voilà.
D'accord. Bon, on va le quitter, le bureau, un petit peu quand même. Mais c'était très beau. J'ai passé un très, très bon moment dans ce restaurant populaire. Merci beaucoup, Luna.
De rien, ça a été un plaisir.
Je voudrais juste que vous nous présentiez un petit peu cette cuisine coréenne, parce qu'elle n'est pas, quand on parle de la cuisine coréenne, on a l'impression qu'on dit en une seule phrase ce que peut être la cuisine coréenne. C'est une cuisine qui a de nombreuses influences, qui explique aussi les différentes trajectoires et les philosophies. Est-ce que vous pourriez nous retracer un petit peu ces différentes influences qui ont marqué et qui marquent encore aujourd'hui la cuisine coréenne?
Si je vous décris de manière chronologique, ce serait peut-être là d'ailleurs un élément très très important dans la cuisine coréenne, ce sont des condiments fermentés à base de soja. Donc ça remonterait probablement le plus longtemps, puisque ce serait commencé à l'époque de royaume coréenne très ancien, qui remonte de 4000 ans ou 5000 ans avant, dont le territoire remontait assez haut jusqu'au sud de Mandchourie. C'est un pays natal de plantes soja.
D'accord. C'est le berceau du soja?
Voilà, c'est ça, ouais.
Et en disant ça, on dit tout de suite combien le soja est important pour la Corée. C'est fondamental, le soja, en Corée.
C'est exactement, c'est pour ça que je commence par ça. Le soja, c'est un légume difficile à digérer en consommant tel qu'il est, même après la cuisson. Donc, nous imaginons, en consommant ça, on aurait trouvé la technique de fermentation. C'est ainsi qu'on peut vraiment digérer normalement et aussi obtenir le maximum de substances nutritives que le soja peut offrir. Donc, c'est devenu pâte de soja fermentée, sauce de soja fermentée. Et après, il y a toutes sortes de condiments fermentés à base de soja. Sur cette base, on pourrait penser aussi la Corée, qui est un pays voisin de la Chine. On aurait pensé au taoïsme, dont la pensée est très liée avec le manger. Si j'ai à dire un petit peu, la religion taoïsme, c'est une religion de comment bien digérer. Tout le thématique est porté comment bien digérer, et quand l'intérieur est serein, bien digéré, et l'esprit serait aussi serein et on vit bien. Voilà, c'est ça en gros, si je résume assez, c'est pour vous faire comprendre facilement. Voilà, c'est dans cette religion où on a une idée des aliments liés avec une certaine idée cosmique, par exemple 5 couleurs qui auraient rouge, jaune, blanc, noir, vert. Et chaque élément lié, terre, métaux, voie, l'air, eau, comme ça. Et chaque élément amène l'énergie de la nature. Et c'est chaque couleur présente dans les aliments. Donc, en prenant les aliments couleurs variées, on peut prendre l'énergie de la nature, par exemple. Voilà. Ça, c'est une idée qui est très présente dans la cuisine coréenne.
Encore aujourd'hui, donc là, on est passé des siècles et des siècles, donc on se nourrit de taoïsme, on se nourrit de mandchourie et de soja, et on se nourrit évidemment aussi de bouddhisme.
Ben, c'est ça. Après, bon, avec le temps a coulé, maintenant c'est le bouddhisme qui est introduit en Corée, où on a une grande héritage de végétarisme. Donc c'est eux qui nous ont laissé, enfin les anciens coréens bouddhistes, qui nous ont laissé plein de recettes à base de plantes, et surtout les plantes sauvages, puisque les temples étaient souvent situés dans les endroits. Évidemment, ils faisaient une espèce de vie d'ermite. Du coup, ils étaient isolés dans les endroits isolés à la montagne. Donc, ils cueillaient beaucoup de plantes sauvages qui étaient à la fois médicinaux mais c'est aussi qui apportait des vitamines ou toutes sortes d'oligo-éléments, et aussi pour conserver jusqu'à libérer. Pendant ce temps-là aussi, c'est les moines bouddhistes qui nous ont transmis beaucoup de façons de fermentation. Parce que toutes ces plantes sauvages, c'est aussi assez coriace pour manger tel qu'il est. Donc, il fallait passer aussi sur une technique, soit cuisson, soit séchage, et surtout la fermentation. Voilà, c'est comme ça qu'on digère mieux. Voilà, on a, tu vous ai parlé comment ça se passe avec les bouddhistes. Après, ça, c'est une partie vraiment très longue, très classique, très ancienne, traditionnelle. Dans l'histoire récente, la Corée était très, très tourmentée. Il y avait la guerre de Corée, il y avait l'occupation japonaise. Et plus récemment, il y avait une reconstruction du pays. Après cet événement malheureux, l'occupation et la guerre, on devait reconstruire le pays. Ça, c'était pas vraiment facile non plus. C'était une sorte de guerre, autrement, mais guerre économique. Une partie d'héritage culturel devait être sacrifié parce que tout était misé sur le plan économique.
Pour cette reconstruction et cette croissance nouvelle qu'il fallait trouver.
C'est ça, c'est ça. Et parce que tout devait être fait vite, 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 rapidement. donc, alors que quand on voit la mentalité coréenne, c'était pas comme ça. C'était une les gens aimaient bien s'amuser. Ils étaient, la lenteur était une vertu. Et nous avons perdu ces vertus, disons, après la fin de la guerre, c'est-à-dire dans la partie, le 12e moitié du 20e siècle, où on était vraiment consacré à la reconstruction du pays. Et nous avons malheureusement beaucoup perdu ces vertus traditionnelles.
Oui, bien sûr, on va en parler d'ailleurs de cette reconstruction et de cette fracture entre un monde moderne, ultra trépidant, rapide, et cette, on va dire, cuisine de la lenteur, et cette cuisine de la nature aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que la cuisine coréenne est une cuisine qui s'inspire et qui transcende la nature, qui est un reflet de la nature, selon vous, justement par sa philosophie taoïste, par son impression bouddhiste et végétale, et par ses liens aussi avec la nature qui entoure. Est-ce que vous pourriez dire ça, que c'est une cuisine presque écologique avant l'heure, slow food avant l'heure, de la lenteur en tout cas?
Oh, oui, 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 tu pourrais dire ça, mais au fond, honnêtement, à l'époque, tous les peuples de la Terre vivaient écologiquement, vivaient en harmonie avec la nature. C'est vrai que certaines civilisations, comme la civilisation occidentale, qui s'est industrialisée rapidement, enfin, le plus tôt, où ils avaient peut-être une tendance de voir. C'est vrai qu'il y a aussi un contexte de la religion, le judéo-christianisme, c'était la nature, c'était un objet à conquérir. Alors, si je parle de la tradition asiatique, la nature, c'est quelque chose qu'on vivait dedans, en harmonie, c'était pas un objet, on vivait dedans, voilà, c'est ça que je voudrais dire. Donc, oui, la Corée, la nature, c'était quelque chose de assez comme une personne à côté, en fait, on pouvait personnifier la nature, et bien sûr, il était au-dessous de nous, mais c'était pas un dieu puissant. C'est quelque chose qui nous protégeait.
Avec nous.
Oui, avec nous, et puis aussi à se soigner la nature, et la nature nous soigne.
Et la nature aussi est vivante, et la fermentation, c'est l'expression de ce vivant. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Et est-ce que vous pourriez nous parler justement de ces sauces fermentées, avant de parler du kimchi, dont on va parler évidemment, est-ce que vous pourriez nous parler du soja? Des différentes formes du soja fermenté, que ce soit la sauce, et justement des transmissions, des recettes autour du soja.
Oui. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé que la culture coréenne, aujourd'hui, c'est vrai, malheureusement, on est coupé en deux. Il y a la Corée du Nord et la Corée du Sud, et depuis 1953. Donc, la culture de Corée du Sud a une partie assez importante de Sud. Sinon, si on parle vraiment de la Corée, qui date de 5000 ans, il y a une partie très, très importante de culture du Nord et qui monte jusqu'en Mandchourie. Et là, dans la culture du Nord, il y a aussi beaucoup de, comment on dit, une religion de chamanisme aussi, chamanique. Et donc, la terre, les plantes, dans ce chamanisme, il y a aussi une partie animique. Donc, la terre, les pierres ou les plantes sont tous vivants. Si les Coréens ont une sensibilité assez développée pour la fermentation, tu crois que dans le fond, il y a ce sentiment religieux qui, il faut bien préciser aux Occidentaux, c'est pas pour un Dieu puissant, mais c'est un sentiment religieux vis-à-vis de la nature. Un brin d'herbe.
Spirituel.
Voilà, spirituel. Voilà. Un brin d'herbe, un caillou, ou une branche d'arbre, ou un animal. Voilà. Tout peut être spirituellement touché. Et je pense que croire à ces choses, finalement, a donné aussi un bon fond à croire à la fermentation, voir ces microbes à l'époque qu'on n'aurait pas pu voir parce que le microscope n'existait pas. Mais on a cette croyance, on a l'habitude d'avoir la croyance aux invisibles. Donc voilà, tu penses que c'est là que la fermentation était assez bien dans l'ADN des Coréens. Et après, le soja, bah, je veux dire, c'est une plante difficile à digérer, voilà. Et on devait forcément... La fermentation, c'est presque, c'était une nécessité qui devait être là avec le soja.
Et on va préférer la pâte, on va préférer les pousses. J'ai l'impression qu'on va tout fermenter dans le soja. On en a mille usages.
Oui. Bon, au début, c'était la forme de pâte, la pâte un peu fluide. Avec le temps, c'est devenu un peu plus raffiné. Du coup, on filtrait la pâte et on extrait le jus. À côté, la pâte, donc le résidu, le contenu dur est devenu la pâte de soja et le jus extrait est devenu la sauce de soja. Et après, depuis, on mélangeait le poudre de piment dans la pâte de soja qui est devenue la pâte de soja pimentée qui s'appelle gochujang. Ben, les fans de Coréens savent assez bien, ils adorent cette pâte épicée parce qu'elle est légèrement sucrée aussi. Et voilà, c'est une façon, je parle que de trois choses, mais sinon, chaque région, ils ont leur pâte de soja en y mettant leur céréales de spécialité de région ou d'autres fruits. Il y a aussi des plantes médicinales qui ajoutent dans les pâtes. Il y a vraiment une version très, il y a beaucoup de versions selon la région en Corée.
La sauce soja sert à cuisiner, à fermenter également. C'est un ingrédient, un condiment. Elle donne un goût. Quel est son usage? Quelle est sa place?
Alors, la sauce soja, je vais revenir un petit peu aux histoires du bouddhisme. Comme dans le bouddhisme, c'était pas imposé, mais le végétarisme était très recommandé. Du coup, il fallait bien avoir un goût adoucissant comme le goût de viande dans le repas. Donc, la sauce soja faisait surtout ce goût de ce qu'on appelle aujourd'hui umami. Voilà, c'est ce goût de umami. Ça apporte le salé, mais en plus avec quelque chose. Donc, à l'époque, en Corée, anciennement, c'est comme quand on a la sauce soja à la place de simple sel, ça veut dire qu'on avait quand même un peu plus de moyens. Et surtout, dans les grandes familles, le secret de fabrication de tous ces sojas fermentés, c'était vraiment important en tant que maîtresse de la maison. Parce qu'en Corée, chaque famille fermentait leur condiment de soja à la maison. Il n'y avait pas un endroit qui le fait dans un centre ou chez un artisan. Après, on pouvait acheter ou distribuer. Mais c'était chaque maison avait leur recette. Et surtout dans les grandes familles, là où il y a beaucoup de banquets, grands repas et tout ça. La femme de foyer, c'était très important de maintenir la bonne recette de belle-mère aux belles-filles, comme ça.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
나는 내일 아침엔 굳은 어부일 먹을 수 있네. 나는 참 바보다. 엄마만 봐도 봐도 좋은 걸. 한밤중에 목이 말라 냉장고를 열어보니 한기둥이에 고등어가 소금에 절여져 있네. 어머니 코고는 소리 조그맣게 들리네. 어머니 눈 고등어를 구워주려 하셨나 보다. 소금에 절여놓고 편안하게 주무시는구나. 나는 내일 아침에는 고등어 구일 먹을 수 있네. 어머니 눈 고등어를 절여놓고 주무시는구나. 나는 내일 아침에는 고등어 구일 먹을 수 있네. 나는 참 바보다. 엄마만 봐도 봐도 좋은 걸.
�man et macro de Kim Chang-wan sur RFI. Vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde avec l'artiste, écrivain, cuisinière Luna Kyung, auteur de Easy Corée aux éditions Mango, l'art de la fermentation et du blog La Table de Diogène. Nous filons le long des saisons en observant chaque correspondance de cette cuisine pleine de vie et de symboles, la vie dans les fermentations qui signent le goût de cette cuisine. Et il y a, est-ce un pot, une cocotte, est-ce une jarre, je ne sais pas. Longhi, est-ce que vous pourriez nous parler de longhi, Luna Kyung, s'il vous plaît?
Alors, longhi, bon, en coréen, bon, il n'y a pas d'article, donc on va dire ongi. C'est tout, c'est jar, c'est un vaisselle, c'est un petit pot. Chez les peuples, ça peut être aussi une décoration, sauf que chez les nobles, ce serait plutôt des celladons comme ça. Voilà. Et parfois, on conservait même les textiles parce que c'est un contenant qui respire. Les textiles. On conservait aussi des graines pour qu'il n'y ait pas de moisissure. Alors, ce sont des ustensiles en terre cuite. Ça peut être verni ou pas verni. Le verni lui-même aussi, c'est, encore une fois, c'est fermenté. Donc, ce sont des vernis végétaux. On laisse pourrir des végétaux avec la terre et on obtient à la fin une liquide noire qu'on met sur la terre modelée et on passe au cuisson autour de 1000 degrés, 1200 degrés, comme ça. C'est à peu près la même température que faïence, voilà, par exemple. Et c'est la qualité de terre qui est un peu plus, les grains sont un peu plus gros que céramique, ce qui laisse des trous. Il ne fuit pas, bien entendu, mais ça laisse respirer le contenu qui est dedans. Donc, en mettant la sauce de soja ou la pâte ou le kimchi, ça ne coupe pas complètement de l'extérieur, ça respire et ça laisse fermenter pendant longtemps. C'est ça, le longi.
Donc, c'est un pot, en fait, concrètement, un pot avec un couvercle qui a une forme différente en fonction de s'il fait chaud ou plus frais, c'est ça?
C'est ça. En fonction de sud ou nord, je crois que le nord, c'est plus rond, c'est plus évasé pour recevoir maximum de chaleur au soleil. Alors qu'au sud, comme il fait chaud, la forme de peau est plus allongée. C'est comme ça qu'il reçoit le moins de soleil, comme ça qu'il sera moins chaud. Et ça peut être un jar immense, vraiment, dans lequel on pourrait même mettre trois personnes très, très grandes, ou même juste, ça peut être un petit pot qu'on peut mettre dans un coin de cuisine. La forme la taille est très variée. On peut mettre aussi bien le liquide, les graines. Bon, je vous ai dit ça. Voilà.
Ouais, mais comme le contenant respire, ce qui est fascinant, parce que c'est en vous lisant que j'ai découvert cet objet. Et c'est assez fascinant de voir à quel point la terre dont il est composé, le vernis qui l'entoure, réalise vraiment une continuité et un pont entre la nature, la matière qu'il contient et le goût.
Bah, c'est une très bonne remarque. C'est vrai, quand on voit ça, le contenant, par exemple, kimchi, le chou qui fermenterait dedans, et il est en contact avec la terre à partir duquel le chou est venu. Et la terre, avec son vernis extérieur, c'est le jus, jus pourri.
C'est l'humus?
Oui, voilà, voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Et le vernis, et avec l'air extérieur. Donc, tout ça, c'est une continuation qui, en remontant le temps, à un moment donné, tout ça était une chose, en fait. Tout ça, ça venait de même élément. C'est devenu une plante, c'est devenu la terre, c'est devenu les feuilles de l'arbre. Et après, tout ça est cuit dans... Enfin, le, voilà, il y a un cuisson sur le feu, dans le feu, là, pour le céramique, enfin, pour le ongi. À la fin, c'est un petit peu différent, mais à l'origine, ils viennent tous de la même chose. Et c'est une remarque que je n'ai pas pensée, mais Clémence, vous avez bien remarqué. C'est vrai, c'est vrai.
C'est assez fascinant, je dois dire. D'autant que vous précisez, alors ça, je l'ai vu sur votre blog, que on voyait la qualité de la maîtresse de maison à l'endroit où est-ce qu'elle plaçait justement ses grandes jarres, ses ongi, et voir s'il était stable, pas stable, pour voir un petit peu le trésor familial, comment il allait pouvoir se comporter et faire fermenter.
Oui, oui, oui. Ça, voilà, ça continue. En fait, c'est une continuation de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Un aliment, il est jamais isolé tout seul. Il est lié, surtout, un aliment en fermentation, c'est encore plus, il est lié avec son environnement. Fermentation, c'est une action des éléments vivants, les microbes vivants. Donc, s'il y a un arbre à côté, s'il y a une plante ou une pierre ou une motte de pierre à côté, tout l'environnement, une chaîne vivante, écologique autour est différent. C'est pour ça que quand on a un lieu dédié à la fermentation, on courait souvent dans le cours derrière la maison, il y a un lieu dédié avec les pots ongi, comme ça, grand, petit. Il y a un lieu dédié à ça. L'environnement autour, on ne touche pas vraiment. Parce que si on modifie le topologie, si vous voulez, un petit peu autour, il pourrait y avoir un goût différent, il pourrait y avoir un changement dans le processus de la fermentation. Et parce que c'est vrai que certaines plantes sont antiseptiques, donc ça empêche aussi d'installer des mauvaises moisissures. Par exemple, on voit souvent les pins autour de le jar en fermentation, parce que le pin, comme ici aussi, c'est comme le thym ou des choses, il y a une fonction antiseptique. Ça aide à la fermentation.
Alors, je pensais, on a parlé plusieurs fois de ce terme depuis le début de cette émission, qui est le kimchi. Alors le kimchi, c'est un peu le symbole de la cuisine coréenne. Aujourd'hui, kimchi par-ci, kimchi par-là, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que le kimchi? Et on en a une vision peut-être un peu courte. Du kimchi, c'est forcément du chou quand on est ici, alors que bon, non, on est d'accord. Qu'est-ce que le kimchi? Racontez-nous un petit peu.
Bah, kimchi, déjà pour faciliter la compréhension des Français, on va considérer ça un peu comme le fromage. Beaucoup de variations selon la région. Donc en Corée, on compte, je ne sais pas, entre 150 ou 200 sortes de kimchi différents, avec assaisonnements différents. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le piment qui vient très très fort, donc beaucoup sont pimentés, mais à l'origine, c'était beaucoup plus varié. Ce sont principalement les légumes fermentés, alors que les légumes fermentés dans le monde, il y en a partout. Si je donne une caractéristique au kimchi, ce sont des légumes fermentés, souvent avec une partie, un ingrédient d'un produit d'origine animale. Donc, souvent, ce sont des fruits de la mer, déjà fermentés en forme de sauce de soja, la sauce de poisson fermenté, ou tout simplement poisson fermenté, c'est-à-dire il n'est pas en sauce, c'est le poisson entier fermenté, on le met. Dans les régions où la mer n'est pas vraiment abordée, on met aussi des viandes fermentées, ou la viande crue aussi ça rentre, ou le bouillon de viande aussi ça peut entrer dans le kimchi. Donc le kimchi, juste pour donner un petit peu son originalité par rapport à d'autres produits fermentés à base de légumes, moi je dirais cette association de végétal et animal. Et à la fin de fermentation, c'est un peu comme une sorte de fusion de deux mondes différents, et qui devient un seul pour créer quelque chose d'harmonieux, pour créer le goût. Et chaque région a la façon différente pour faire cette goût harmonieux ou ou la fusion.
Dans Easy Corée, vous parlez d'un trio incontournable qui sont ciboule, ail et sésame. Est-ce qu'on peut faire des kimchi d'ail, des kimchi de ciboule, des kimchi de sésame ?
Sésame, non. Ça, c'est, je crois que... Non. Sésame, c'est plutôt, c'est quelque chose qui vient sur les cuisines pour la finition. C'est un peu comme ici, on saupoudre le parmesan, quelque chose, c'est à peu près comme ça. Sinon, pour le trio de kimchi, c'est l'ail, ciboule et le piment, encore une fois. Ça revient encore, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est... vraiment ancré maintenant dans les veines coréennes. Et à part ça, souvent on met quand même aussi, vous demandez aux Coréens, oui mais non, il faut avoir la sauce de poisson fermenté, voilà, on pourrait dire ça, mais c'est quand même aujourd'hui de plus en plus de végétariens qui n'utilisent pas la sauce de poisson. Et puis moi-même, je suis née à Séoul, là où on met une cuisine un peu moins prononcée, du coup chez moi on ne mettait pas beaucoup de sauce de poisson. Donc moi, quand je mets très peu de sauce de poisson.
Du coup, justement, est-ce que cette urbanisation, on a commencé cette émission en parlant de l'urbanisation, de la croissance effrénée, du lendemain de la guerre, où on a eu une industrialisation justement pour reconstruire le pays, ça a changé complètement la manière dont on mange, la manière dont on vit. Pour ce qui est de la manière dont on est ensemble pour manger et pour ce qui est justement de tout ce qui est traditionnellement des kimchi, des piments, est-ce qu'on s'est détourné de ça ou est-ce que avec cette vague d'envie de plus d'une nourriture saine, plus végétale peut-être, est-ce qu'on revient vers ça? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Si je parle vraiment la tendance tout dernièrement, tout récent, ce serait effectivement, on est en train de récupérer la tradition rompue. Ce serait plutôt ça. Et on essaye de, aussi, la culture de slow aussi, ça revient, heureusement. Sinon, dans les années 60 jusqu'à 2000, la Corée s'était vraiment, il s'est adonné dans une course effrénée de croissance économique. Et pendant ce temps-là, tout était lié avec la rentabilité. Donc, la bonne cuisine n'avait pas vraiment le droit. Et quand on mangeait au restaurant, les ingrédients, les produits n'étaient pas vraiment très honnêtes. Du coup, ce sont souvent les épices qui couvraient la piètre qualité des ingrédients. Ça a duré pendant très longtemps. Et en plus, pour attirer les clients, chaque restaurant assaisonnait les plats de plus en plus sensationnels que d'autres restaurants voisins. C'est une concurrence qui a baissé la qualité de la cuisine. Donc, on met beaucoup d'épices, on met plus de sucre et on cuisine les plats avec plus de gras, plus de friture, ce qui fait au final... une sorte de surenchère sur la cuisine. Tout ça a été dans un contexte de la rentabilité. Et les gens aussi, quand on travaillait beaucoup et la productivité était très importante, on avait beaucoup de stress, la pression sociale était telle, pour réconforter cette vie qui était très dure, on était attiré naturellement pour les plats qui étaient forts. Vous voyez, par exemple, le piment, c'est un phénomène connu. Même mondialement, aujourd'hui, la consommation de piment, ça augmente de plus en plus. C'est parce que, dans la vie moderne, on a ce stress qui augmente dans la vie citadine. Et on a besoin de résoudre en mangeant les aliments de plus en plus puissants, sensationnels.
Le piment.
Oui, le piment, voilà. Ça, c'était une histoire de génération des personnes un peu âgées aujourd'hui. Les jeunes qui n'ont pas vécu cette histoire dure et qui est née dans une époque, en Corée en tout cas, avec l'abondance matérielle, une certaine aisance, eux, ils ont envie de retrouver une vie plus lente et surtout renouer avec la tradition que les Coréens ont perdue.
Le piment pour se calmer quand même, c'est assez extraordinaire ça.
Oui. Ah, y a autre chose aussi que j'aimerais dire dans le contexte. Comme les Français... on vient de trouver la culture de livraison avec cette malheureuse histoire de coronavirus. La Corée, c'est aussi un peuple de livraison. tout ce livre est très rapidement n'importe où. Vous êtes au milieu de la rue quelconque et vous appelez, moi je suis à côté de la Seine, à côté d'un grand arbre, et comme ça vous pouvez amener un platel, il l'amène là-bas. Donc vraiment la libration est bien installée dans la culture. Par contre, ça a été vraiment un élément très important de la baisse de la qualité. Parce qu'en faisant de libraison, on ne peut pas vraiment maintenir la meilleure qualité de la cuisine. Donc, en arrivant, en ayant cette libraison-là qui va forcément venir en France, il faudrait attention vraiment cette baisse de qualité, il faut faire très attention.
Non, on va se retrouver autour de la table, rassurez-vous.
J'espère, il faut que ça continue.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Écoutez Le Goût du Monde, bienvenue Le Goût de la Corée avec Luna Kyung, écrivain spécialiste de fermentation qui publie chez Mango Easy Corée, un petit bijou de recettes et d'initiation à la cuisine coréenne, au goût du temps, au goût des montagnes, au goût aussi de vie trépidante dont nous parlions juste avant la musique. Alors justement, on s'est dit qu'on n'allait pas être déprimé par le fait qu'on n'avait plus de bons repas autour de la table parce qu'on ne mangeait que des repas livrés. Cependant, cette vie trépidante a aussi créé une nourriture et une cuisine qu'on fait à table. Donc on a apporté sur la table des instruments, Luna Kyung, pour cuisiner et se faire des fondues et justement se refaire des plats qui nous rassemblent. Racontez-nous un petit peu, Luna.
Oui, c'est quelque chose assez nouveau. Voilà, dans cette vie trépidante, comme tu décris, il n'y a pas que des choses négatives. Finalement, dans la vie urbaine, et il y a aussi récemment, vous voyez, dans le monde partout, il y a beaucoup de célibataires qui augmentent aussi en ville. Donc les gens sont seuls, on travaille beaucoup, dont livraison de repas et tout ça. Et surtout, tous ces célibataires mangent beaucoup au restaurant ensemble. Et ils ont de manière très ludique de manger ensemble sur la table. Ils finissent la cuisine en fait à la table. Le personnel du restaurant amène dans une grande poêle et les ingrédients sont déjà posés, mais ils sont pas encore cuits, ils sont coupés et joliment disposés. Et chaque convive cuisine un peu à leur manière, en mettant plus ou moins des épices ou d'autres choses, en mettant plus de liquide ou pas. Et c'est un peu comme ambiance fondue en France.
Comme une fondue.
Voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est en version vraiment beaucoup, beaucoup. Et une fois qu'on aurait fini le contenu dans le casserole très large, et comme ça souvent très large et peu profonde, après, dans le liquide qui reste, on peut mettre des nouilles ou du riz et on fait une sorte de riz sauté avec un peu de sauce qui restait dans le fond. C'est vraiment comme on mange à la maison. Mmh. Du coup, ça fait vraiment une ambiance de famille qui crée à la table. Ce sont pas vraiment des familles, ce sont plutôt les collègues de bureau et tout ça. Mais on a cette ambiance qui manquait, le repas de maison, voilà, qui manquait. Mais on peut faire ça entre les collègues, dont on mange un repas très familial de mélanger les nouilles ou le riz comme ça dans la sauce qui reste. Normalement, ça se fait vraiment, c'est presque un geste intime en famille, vous voyez. Mais là, on fait avec les collègues, avec les amis, dans un restaurant qui n'est pas vraiment la maison. Ça crée quelque chose d'une intimité qui se fait dans la maison. Ça crée des liens familiales et c'est quelque chose qui est quand même très important dans un univers en Corée, là où on travaille beaucoup et beaucoup de célibataires loin de la famille. C'est important cette convivialité.
Ouais. Ça recrée cet espace familial. J'imagine qu'on boit également.
Oh, ça, quand on a beaucoup de pression, forcément, on boit.
Oui. C'est fermenté également.
Bah oui, bien sûr, il y a eu beaucoup d'alcool. Ce qui est différent, les Coréens par rapport à d'autres pays asiatiques, peut-être chez eux aussi, à l'époque, il y avait, mais nous, kimchi, tous les produits soja, le condiment de soja, ça se faisait à la maison. Donc, il y a pas vraiment une recette. Et l'alcool aussi, c'est chaque maison avait leur recette d'alcool. Tout ça est malheureusement, justement, perdu pendant ces dernières années en se consacrant tous pour le travail. Mais il y a une grande tradition fermentation, dont les alcools aussi. Mais sinon, aujourd'hui, l'alcool, c'est plutôt les alcools assez forts qui, pour oublier, l'alcool fort, c'est plus efficace.
Avec un petit peu de
plus. Ne vous inquiétez pas, mais en ce moment, c'est plutôt les jeunes, surtout, ont envie de retrouver une vie plus tranquille. Et ça, heureusement, ça continue, ça marche. C'est parti.
Les ingrédients utilisés dans la cuisine des temples relèvent vraiment d'une culture de la proximité. Les produits sont forcément de saison, ils bénéficient de la meilleure terre, de la meilleure eau et reçoivent le meilleur ensoleillement. Ce n'est pas simplement une sorte de végétarisme pour la bonne santé. C'est vraiment cette idée qu'on partage tous la même terre, la faune, la flore, l'air que nous respirons, tout est lié. Si l'eau n'est pas bonne, les animaux sont contaminés et nous pouvons tomber malades. Pour les plantes, c'est la même chose.
Est-ce qu'on se retourne au Nakyung, du coup, vers la cuisine des temples ? Parce qu'il existe, on peut tout à fait se rendre dans un temple et à nouveau s'imprégner de cette cuisine qui est une cuisine simple, qui est une cuisine du temps et des saisons. Est-ce que c'est à nouveau, vous pourriez dire que la table du temple et la table en ville, ça fait un pont et une réconciliation entre ces deux mondes?
Ouais, voilà, comme tu veux dire, donc il y a cette nouvelle tendance, l'envie de retrouver la tradition, l'envie de trouver le temps, surtout chez les jeunes, et jeunes ou les jeunes adultes. Et du coup, ils ont trouvé quelque chose de, comment on dit, qui leur correspond dans la cuisine de temple. La cuisine de temple, ça existait toujours, mais jusqu'à récemment, ça a été limité dans les temples. Ils descendaient pas vraiment jusqu'au dans la société courante, comme ça, extérieure. Et depuis quelques années, c'est devenu un véritable phénomène de la société. C'est parce qu'il y avait ce besoin de chercher la sérénité. Il y a aussi les médias aussi, ont participé quand même beaucoup, y compris les médias étrangers aussi. Et puis, c'est vrai que mondialement, on cherche une cuisine qui peut nous calmer, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et ça correspondait à ça, ça propose quand même une réponse pour ce besoin. Et là, en ce moment, en Corée, c'est de plus en plus de gens, on va aller apprendre à faire la cuisine de temple sans viande, sans comme on dit, additifs industriels. C'est monté très très fort en Corée. Oui.
Ce besoin de retrouver aussi cette nourriture, peut-être, alors c'est un peu cliché de parler comme ça, mais cette nourriture qui va faire du bien à l'âme, du bien au corps, du bien à la terre, de renouer ce cercle vertueux.
Ouais, c'est ça. C'est un cliché, c'est vrai, on peut dire ça puisqu'on en parle tout le temps, mais n'empêche qu'il n'y en a pas assez, donc on peut toujours en parler plus. Et moi-même, quand on dit oui, un aliment qui fait bien corps et esprit, je dis bah oui, bien sûr, c'est quand on mange bien, tout simplement, on est bien. Mais là, c'est vrai qu'il y a aussi la préparation qui est importante. Manger aussi, c'est bien. C'est de faire soi-même, aussi prendre le temps de préparer son repas soi-même. C'est aussi ça qu'on apprend dans la cuisine de temple. Et oui, ils font beaucoup de fermentation. Je suis désolée, je reviens encore à la fermentation. Et c'est là aussi où on apprend la notion du temps aussi. Et de voir, sentir les choses qui n'est pas visible, mais qu'on le sent. Et c'est sentir la nature.
C'est une tradition dans le goût du monde. S'il devait y avoir un seul ustensile et un seul ingrédient, lesquels seraient-ils, Luna Kyung?
Vous me posez une question un peu embarrassante parce que, mine de rien, à force de vivre 30 ans en France, j'ai 2 cultures. Donc, il faut que vous me donniez au moins 12 ustensiles et 2 choses.
Des couteaux peut-être pour les ustensiles.
Ah oui. Écoutez, mais je crois que c'est quand même le couteau. Ça, je suis désolée de vous donner une réponse un peu banale, mais ce serait le couteau. Oui. Et ingrédient, c'est le riz. Je suis désolée, je suis une asiatique très très banale, pas très originale, mais ce serait le riz. S'il y a quelque chose un peu pas très original en tant qu'asiatique, ce serait le lait, parce que mon père travaillait dans le domaine dans l'industrie laitière. Donc je suis une des rares personnes qui a été nourrie avec le lait. À l'époque, on courait. Quand j'étais petite, le lait n'était pas encore très courant. Donc, j'ai vraiment le goût de lait. Le riz, je mangeais le riz, en fait, dans le lait, quand j'étais petite. Voilà.
Un riz au lait. Ça, c'est votre meilleur souvenir, alors, du coup.
Un riz au lait salé, par contre. C'était pas sucré. Oui. Riz au lait, le kimchi, ça, c'est mon plat d'enfance. Ouais.
Faudra nous donner la recette. On est d'accord.
Très simple, mais il y a une subtilité. Oui, je vous donnerai. Oui.
Et on la publiera dans la page du Goût du Monde. Merci beaucoup Luna, merci pour ce voyage.
Merci beaucoup. Hein,
qui nous a séduit comme à chaque fois, hein, une fois de plus, on a juste une envie, c'est de prendre ses bagages et quand on pourra, éventuellement partir en Corée. En tout cas, on peut y aller en lisant Easy Corée, c'est publié chez Mango. Nous mettrons sur la page de l'émission également les liens vers votre page Facebook et Instagram, vers tous vos ouvrages. Et avec votre complicité, donc Luna, outre votre recette de dessert d'enfance ou de riz salé d'enfance, on mettra peut-être une ou deux autres recettes pour continuer la découverte de la cuisine coréenne. Je suis presque sûre que l'émission d'aujourd'hui a fait écho chez vous. Quelle sauce, quel plat, quelles histoires? Est-ce une cuisine qui vous inspire? Racontez-nous sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Cécile Bonissier pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde. Merci à tous de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.